Alors voilà ce qui est affiché, le sermon sur la montagne. J'ai choisi d'afficher ça comme première diapo parce que avec Charlie, nous avons décidé d'entamer une série sur le sermon sur la montagne. C'est-à-dire que un mois sur deux, il y aura deux prédications qui vont se suivre, une de moi, une de Charlie, sur une des sections du sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Donc nous allons commencer cette fois-ci. Charlie va se faire la semaine prochaine, dimanche prochain. Et au mois de janvier, normalement, il y aura encore deux dimanches qui vont se suivre, où nous allons faire les sections suivantes de celle-ci. Je signale pour les personnes qui viennent à l'étude biblique de Gobert-Ingré que vous allez remarquer des similitudes avec certaines sections de l'évangile de Luc. Parce que là, pour l'instant, en ce moment, dans l'évangile de Luc, nous étudions quelques passages qui sont dans le sermon sur la montagne de l'évangile de Matthieu, mais c'est vraiment différent. Et d'ailleurs, dans le passage aujourd'hui que nous allons étudier, qui sont les béatitudes, nous allons voir qu'il y a vraiment des différences entre les béatitudes version Luc et les béatitudes version Matthieu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours lire un passage dans le contexte de son évangile, de son épître. Faut surtout pas mélanger les passages dans plein de livres de la Bible, pas forcément les comparer, parce que chaque auteur de la Bible a voulu utiliser certaines paroles de Jésus pour un but bien précis. Et le but de Matthieu, quand il écrit son évangile, c'est d'écrire une sorte de manuel du disciple. Matthieu veut que les disciples, sûrement des disciples plutôt d'origine juive, comprennent qui est Jésus, que Jésus est vraiment le Messie promis par Dieu, et même encore plus, que Jésus est le véritable Israël. L'Israël qui a réussi sa mission, au contraire de l'Israël qui l'a raté dans l'ancienne alliance. Et le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, c'est le premier des cinq grands discours de Jésus. Il y a cinq grands discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, et là, voilà, c'est le premier, et c'est un peu un discours programme, où Jésus nous fournit un peu la carte d'identité du disciple. La carte d'identité du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un chrétien? Le sermon sur la montagne nous le dit. Et l'entrée en matière de ce grand discours, ce sont les béatitudes. Les béatitudes parlent de quoi, les béatitudes? Vous vous rappelez? De bonheur, exactement. Ça parle de bonheur parce que, vous savez, Jésus fait ce qu'on appelle une anaphore. Une anaphore, c'est un texte où toutes les phrases commencent par le même mot. Et toutes les phrases de Jésus dans les béatitudes commencent par « heureux, heureux ». On va parler de bonheur aujourd'hui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez quand je dis le mot « bonheur », à quoi ça fait allusion en vous. Mais on va voir que Jésus a voulu surprendre ses disciples à un moment où c'est le début de son ministère, où il a commencé à faire des miracles, il a commencé à faire certains discours qui ont attiré un certain nombre de personnes qui se sont dites disciples. Et là, Jésus les réunit sur une montagne, les fait asseoir. Enfin, non, plutôt dans la bas de la montagne, il est en haut, et les disciples l'écoutent. Et voici ce que Jésus leur dit à ces gens qui le suivent et qui ne le connaissent pas encore très très bien. Donc Matthieu 5, verset 3. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Vous l'avez peut-être remarqué, Jésus utilise une méthode très efficace pour susciter l'attention de ses disciples. Il utilise la surprise. Car c'est pas très très commun d'associer le bonheur avec les autres parties de la phrase, des phrases, des béatitudes. Si l'on demande à n'importe qui ce qu'est être heureux, ce qu'est le bonheur pour lui, personne normalement ne répondra « le bonheur c'est de pleurer, le bonheur c'est de rechercher une justice parfaite », c'est-à-dire d'être insatisfait finalement, et le bonheur vraiment c'est d'être persécuté. Alors ça c'est vraiment le bonheur le plus absolu. Si quelqu'un vous dit ça, a priori vous allez appeler des docteurs qui vont le mettre au repos parce qu'a priori il aura un sérieux problème, ou sinon il est complètement masochiste, ce qui n'est pas une maladie mentale mais qui, bon voilà, une perversion un petit peu quand même. C'est pas commun d'associer le bonheur à toutes ces choses-là. Alors, pour essayer de comprendre ce passage, il va falloir le décrypter. En tout cas, essayer de l'analyser un peu plus en profondeur, parce que voilà, je vous l'ai mis un peu en un seul bloc, mais sachez qu'en fait, il peut se séparer. En tout, il y a 8 béatitudes, et on peut les séparer en 2 groupes de 4. Et on va voir avec cette petite construction. Normalement, vous voyez pas trop mal. À gauche, donc, les 4 premières béatitudes, et à droite, les 4 dernières. Sachant qu'il y a un dernier heureux en 9e position, mais qui est un développement de la dernière béatitude. Les 4 premières béatitudes, à gauche, sont des béatitudes de dépendance. De dépendance. Donc, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ces personnes qui sont heureuses, dans la colonne de gauche, sont des personnes qui reconnaissent qu'ils ont un manque, qui reconnaissent que tout ne va pas bien. Hein. C'est pour ça qu'en fait, elles se reconnaissent spirituellement pauvres, c'est pour ça qu'elles pleurent, c'est pour ça qu'elles sont humbles, parce qu'en fait, elles ne peuvent pas prétendre à plus que l'humilité. Je vous rappelle que le mot humble vient de humus, qui signifie la terre, donc être humble, c'est être près de la terre, c'est pas vouloir s'envoler près du ciel, c'est le contraire de l'orgueil, l'humilité. Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice. S'ils ont faim et soif de justice, c'est parce qu'ils comprennent que dans leur vie, dans ce monde, la justice est très très loin d'être parfaite et ils aspirent à autre chose. Ce sont des béatitudes de dépendance, des béatitudes d'insatisfaction. Et je vous ai mis en rose la dernière partie de la béatitude à chaque fois. Qu'est-ce qui arrive ? Pourquoi est-ce que ces personnes doivent être heureuses alors qu'elles sont insatisfaites ? Mais c'est parce que Dieu viendra compenser cette insatisfaction. Il y a une compensation de la part de Dieu à chaque fois. Le royaume des cieux leur appartient, Dieu les consolera, Dieu leur donnera la terre en héritage et ils seront rassasiés. Vous remarquerez que ce que Dieu leur donne, c'est exactement ce qui leur manque. Et c'est pour ça que ces disciples, que ces personnes doivent être heureuses. Les 4 béatitudes de la colonne de droite, donc les 4 dernières, sont plus des béatitudes de dépendance, mais des béatitudes de don de soi. Donc heureux ceux qui témoignent de la bonté, heureux ceux dont le cœur est pur, ceux qui ont le cœur doux, ceux qui sont doux de cœur, heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, c'est-à-dire qui n'aiment pas seulement ceux qui les aiment, mais qui répandent autour d'elles la paix en général, et heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, donc qui veulent de la justice et qui du coup sont opprimés à cause de ça. Ce sont des personnes qui se donnent pour Dieu, pour que Dieu les aime, et qui se donnent pour les autres, pour aimer les autres. Qu'est-ce qu'elles reçoivent de la part de Dieu ? Elles ne reçoivent plus une compensation, mais elles reçoivent une récompense, ce qui est un peu différent. Dieu, en échange, sera bon pour eux, au verset 7. Ils verront Dieu, Dieu les reconnaîtra pour ses fils, et enfin, le royaume des cieux leur appartient. Et c'est là où vous remarquez peut-être, si vous êtes observateur, que la dernière béatitude du verset 10 a la même récompense que la première béatitude du verset 3. À chaque fois, le royaume des cieux leur appartient. C'est ça, la source du bonheur. Et après, les versets 11 et 12, je vous l'ai dit, c'est un développement de la dernière béatitude, puisqu'on reste dans la thématique de la persécution, de l'oppression à cause de la justice envers Dieu. Une fois qu'on a décrypté, il faut que nous réfléchissions à ce qu'est le bonheur pour Jésus finalement. Parce que voilà, décrypter comme ça, c'est juste un petit peu technique. Il va nous falloir comprendre ce que Jésus veut faire passer comme message à ses disciples. Quelle est la vision du bonheur selon Jésus ? Premièrement, Jésus nous dit que le bonheur existe vraiment. Pourquoi est-ce que je mets ça en titre et pourquoi est-ce que ça a l'air d'être une nouvelle que le bonheur existe vraiment ? C'est parce que cette réalité est contestée aujourd'hui et même depuis la nuit des temps, 3 ou 4 siècles avant Jésus, il y a des philosophes déjà qui contestaient cette vision du bonheur. Et même encore plus avant Jésus, quelqu'un a contesté cette vision du bonheur. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne là sur la photo. Vous voyez comment ? C'est pas le Dalai Lama, non, non. Comment ? C'est pas Richard, mais c'est Ricard, oui, c'est ça. Mathieu Ricard. C'est donc, t'es pas tombé loin, Jean-Pierre, c'est l'interprète du Dalai Lama depuis 1989. Mais en tout cas, vous avez reconnu, c'est un moine bouddhiste. Voilà. Il a été reconnu. Où il a été déclaré par des scientifiques comme l'homme le plus heureux du monde. Ce qu'il conteste lui-même. Mais les scientifiques et les journaux ont repris ça il y a un an, comme quoi Mathieu Ricard était l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Ricard ? Sylvain, c'est ce que tu as pensé. Mais non, ce n'est pas parce qu'il boit du Ricard. Le Ricard n'amène le bonheur que quelques secondes, Sylvain, arrête de boire. Pourquoi est-ce que Mathieu Ricard a été considéré comme l'homme le plus heureux du monde ? C'est parce que les scientifiques lui ont branché tout plein de diodes sur la tête, et c'est facile puisqu'il n'a plus de cheveux. Et on a observé ce qui se passait dans son cerveau pendant qu'il méditait, pendant qu'il faisait des méditations bouddhiques, un des deux, je ne sais plus. Et on s'est aperçu que dans son hémisphère gauche, il se passait des choses super intéressantes, que dans son hémisphère gauche, il y avait tout un tas de sécrétions qui se faisaient, qui, d'après les scientifiques, sont des sécrétions de bonheur, de bien-être, pendant qu'il méditait. Donc il a passé des centaines d'heures dans un IRM, quand même, ce qui est quand même assez courageux, parce qu'il paraît que ça fait du bruit, et aussi pas mal d'heures avec des diodes sur la tête pour qu'on analyse tout ça. Et les scientifiques sont formels. Mathieu Ricard, dans son cerveau, il se passe des trucs extraordinaires qui ne se passent pas chez les autres personnes quand il médite. C'est pour ça que les journaux l'ont appelé l'homme le plus heureux du monde. En quoi consistent les méditations de Mathieu Ricard? Sinon, à boire du Ricard, mais il ne boit pas de Ricard. Les méditations de Mathieu Ricard, c'est les méditations qui sont préconisées par Bouddha, qui est apparu, si je me rappelle bien, au 7e siècle avant Jésus. Ce sont des méditations qui sont centrées sur des pensées positives. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que Bouddha a enseigné qu'il fallait être détaché. Détaché de tout ce qui se passe dans notre monde. Détaché des plaisirs et détaché des choses mauvaises. C'est-à-dire que du coup, pour un bouddhiste, par exemple, l'amour, c'est quelque chose de complètement illusoire. C'est n'importe quoi, l'amour. C'est quelque chose qui entraîne des passions, qui entraîne de la souffrance. Et pour Bouddha, tout ce qui peut entraîner de la souffrance doit être anéanti. La méditation sert à prendre du recul sur absolument tout pour atteindre un état comme ça, complètement détaché, où tout, où on se rend compte que tout est illusion, que rien n'existe pour de vrai. Et c'est ça le bonheur pour un bouddhiste. C'est ça le bonheur, c'est de comprendre que tout est illusion. Et de se détacher des émotions, des sentiments qu'on peut avoir envers les personnes ou envers les choses. Et c'est ça qui incite au bien-être. C'est comme ça que Mathieu Ricard est l'homme le plus heureux du monde. C'est-à-dire que le bonheur, tel que vous le concevez peut-être, tel que Jésus le conçoit, est une totale illusion pour un bouddhiste, par exemple. Le bonheur n'existe pas. Ou encore, pour d'autres philosophes grecs, comme Épicure, le bonheur consiste à profiter des petits bonheurs de la vie. La philosophie d'Épicure, c'est pas du tout la philosophie d'Épicure comme on la voit à la télé, où en fait il faut boire, manger, avoir des relations sexuelles, enfin prendre du plaisir où on peut, de manière exacerbée comme ça. Épicure a absolument pas enseigné ça. Épicure a enseigné surtout à, encore une fois, ne pas être trop passionné, mais à profiter de tous les petits bonheurs de la vie. Et puis, bah voilà, aussi à prendre les mauvaises choses en pleine face, mais à surtout s'attacher aux choses positives. Et donc même dans le négatif, il y a du positif finalement. Voyez Épicure ce qu'il a enseigné. Donc il y a encore, il y a une sorte de détachement, mais un détachement par rapport au malheur. Mais par contre, le bonheur, il faut s'y attacher. Il faut s'attacher, il faut poursuivre le bonheur comme ça. Une vie un peu calme, comme ça, un peu sereine. Mais Jésus, lui, ce qu'il nous dit dans les Béatitudes, c'est que le bonheur pur, le bonheur vrai, le bonheur fort existe. C'est pas le bonheur proposé par Épicure ou par Bouddha. Ce bonheur existe vraiment. Le bonheur, deuxièmement, ne dépend pas des circonstances terrestres. Le bonheur, c'est pas être riche, c'est pas posséder des choses, c'est pas être en bonne santé. Le bonheur, c'est pas ça non plus pour Jésus. Et du coup, il se différencie d'Épicure, ou il se différencie de notre société matérialiste, de notre société de consommation. Le bonheur, c'est pas ça non plus. Le bonheur ne dépend pas des circonstances. Le bonheur ne dépend pas non plus d'actes religieux à accomplir pour se donner bonne conscience. Certains pourraient vous dire, si tu veux être heureux, sois-le. Je crois que c'est Léon Tolstoï qui a dû dire ça. Si vous voulez être heureux, soyez-le. Voilà, c'est simple. Hein, si vous voulez être heureux, faites tout ce qu'il faut pour être heureux. Et ça peut commencer par faire des choses religieuses pour se donner bonne conscience, pour être bien dans sa peau, pour avoir l'impression d'être gentil, pour essayer de gagner une place au paradis, ce genre de choses. Mais Jésus, en fait, ne parle pas d'actes religieux, ni d'actes en général, pour être heureux. Le bonheur pour Jésus, c'est une relation et une espérance. C'est une relation avec Dieu le Père, et c'est une espérance de ce que Dieu le Père va donner. Parce que vous l'avez peut-être vu, mais les compensations et les récompenses dans les béatitudes sont au futur. Elles ne sont pas encore là. Sauf pour la première et la dernière béatitude, car le royaume des cieux leur appartient. La seule réalité qui est déjà présente, c'est le fait que le royaume des cieux appartient aux disciples de Jésus. Voilà ce qui fait le bonheur pour les disciples. C'est le bonheur de reconnaître ses besoins pour que Dieu les comble. Et c'est le bonheur de se donner par amour pour lui, parce qu'on sait qu'il y a une autre réalité, un autre royaume. Dans cette réalité, le disciple de Jésus appartient au royaume des cieux, le monde invisible et éternel dans lequel Dieu règne parfaitement. Le règne de Dieu, c'est ça le bonheur. Et justement, le fait d'appartenir à un autre monde, de ne pas appartenir à ce monde, ça entraîne d'être à contre-courant de ce monde-ci, où le mal est roi. Et cela entraîne par la même occasion de la persécution, à cause de la vérité que l'on dit. Mais même si cette persécution est source, cette persécution est source de bonheur. Et c'est ça qui est complètement bizarre dans ce que dit Jésus. Cette persécution-là est source de bonheur. Pourquoi ? Parce qu'elle est au service du bien. Parce qu'elle est au service de la vraie vie. Parce qu'elle est au service du vrai roi. Jésus. C'est pour ça qu'on voit des disciples dans les Actes qui sont très très contents de s'être fait taper dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour le Seigneur Jésus. Jésus est super bien placé pour parler du bonheur. Parce que ce qu'il dit dans les Béatitudes, c'est ce qu'il a vécu. Alors pour le coup, quand il l'a dit, c'est ce qu'il allait vivre. Mais nous, on le sait 2000 ans après, c'est ce que Jésus a vécu. Jésus, lui, Dieu le Fils, qui existe depuis toute éternité, a accepté de se faire faible en s'incarnant. C'est ce que nous ont dit Éliane et Polo. Jésus s'est humilié. Jésus a pleuré. Jésus a œuvré, recherché la justice parfaite. Il a eu tellement compassion pour les plus faibles qu'il les a guéris. Il a tellement voulu obéir à Dieu son Père qu'il a accompli la mission pour laquelle il était venu, c'est-à-dire rétablir la relation entre les hommes et son Père. Il a relisé les béatitudes. Chaque béatitude, vous pouvez la mettre dans l'escarcelle de Jésus. Il l'a vécu, chacune de ces béatitudes. Comment est-ce qu'il a fait ? Eh bien, en accomplissant la justice, les hommes qui sont pécheurs, qui ne font pas la volonté de Dieu, méritent un châtiment, la mort. Eh bien, Jésus va prendre ce châtiment à leur place sur la croix. Lui, l'innocent, lui, le pur, il a accepté de se faire persécuter pour que vous, moi et tous les autres chrétiens puissent retrouver cette harmonie avec leur Créateur. Jésus est l'auteur de notre bonheur. Il s'est vraiment donné. La deuxième chose que Jésus a vécue, c'est la compensation. Parce que c'est pas fini. Là, je me suis arrêté sur la mort. Je n'ai parlé que du premier élément des béatitudes, la dépendance et le don de soi. Mais quelle a été la compensation, la récompense de la part de Dieu le Père ? Vous le savez, quelle a été la récompense de Dieu pour Jésus ? C'est la résurrection. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité le troisième jour. Il fallait une sacrée dose de confiance pour croire que le sacrifice allait fonctionner et que la mort elle-même allait être vaincue. Son obéissance a payé. Mais ce n'est pas fini. Son Père a remis toute chose entre ses mains. C'est Jésus qui jugera le monde à la fin des temps. Quand le royaume des cieux sera la seule réalité existante. Quand le royaume des cieux sera pleinement et définitivement installé sur cette terre. C'est Jésus qui jugera tout le monde. C'est aussi ça la récompense de Dieu son Père, pour lui qui a totalement réussi sa mission sur terre. Jésus a testé la dépendance au Père et le don de soi, et le résultat, c'est que ça marche. C'est que ça marche, nous pouvons en être sûrs. Le bien triomphe, c'est le bonheur. Jésus est la garantie que cette vision du bonheur est la bonne. S'il n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas avoir cette garantie, mais il est ressuscité. Nous pouvons être sûrs que c'est le bon bonheur que nous recherchons et que vous n'avez pas besoin d'aller voir du côté de Bouddha ou d'Épicure ou de Karl Marx. Et la bonne nouvelle pour nous maintenant, c'est que depuis 2000 ans, ce royaume avance, avance, avance. Et nous sommes de plus en plus proches de sa venue pleine et entière. Il faut simplement mettre sa foi en Jésus, et c'est le bonheur. On entre dans ce royaume et on est dans le camp des gagnants. C'est simple, non ? C'est simple, mais ça demande quand même de croire à ces béatitudes qui ne sont pas simples à vivre. Alors, du coup, ma question, est-ce que vous êtes prêts pour le bonheur ? Est-ce que vous êtes prêts pour le bonheur ? Nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes entrés dans cette nouvelle réalité du royaume. Nous avons pris conscience que tous nos besoins seront comblés par le Seigneur. Nous avons décidé de nous consacrer à lui en faisant sa volonté. Mais quelle bonne idée ! Quelle bonne idée d'avoir fait ce choix, d'être disciple de Jésus. Mais la question qui nous est posée par ce texte, c'est: expérimentons-nous ce bonheur dont parle Jésus ? Voilà. Est-ce que vous pouvez lire les béatitudes en vous disant « Je suis heureux » et vous continuez ? Est-ce que vous expérimentez cela ? Si vous voulez plus expérimenter ces béatitudes, j'ai un conseil à vous donner. Pensez de plus en plus à votre espérance. Pensez à l'avenir, parce que justement, la logique de ces béatitudes, c'est de penser à la compensation et à la récompense du Père. Je vais utiliser une parabole pour expliciter mon propos. Vous décidez de jouer à l'Euromillions. Et le soir du tirage, vous apercevez que vous avez tous les numéros. Tous les numéros. Et là, vous vous dites que vous allez gagner la super cagnotte de 60 millions d'euros. Un truc comme ça. Je sais pas du tout. Parce que moi, je gagne tous les jours à l'Euromillions, c'est-à-dire que je ne joue pas, donc je gagne à chaque fois. Mais je ne sais pas quelles sont les cagnottes. Mais en gros, du jour au lendemain, vous faites partie des 30 personnes les plus riches de France. Quelle est votre sensation ? Vous n'êtes pas encore riche, hein, vous avez juste un ticket avec des numéros. Hein, voilà. Mais voilà, vous commencez à vous dire, voilà, ça y est, maintenant je vais être ultra, ultra, ultra riche. Il n'y aura plus de problème pour payer mon loyer, pour me payer une nouvelle voiture. Je pourrai faire des dons à l'église, au GBU. Voilà, oh là là. C'est-à-dire que du coup, Johan Tourne va pouvoir être riche, ça va être super. Mais en gros, voilà, on pourra se payer 3 ou 4 pasteurs rien que pour cette église. Voilà, voilà, vous êtes heureux. Parce que justement, la seule idée de l'avenir en n'ayant plus aucune barrière matérielle vous remplit de bonheur. Je pense que pour les disciples de Jésus, c'est un peu ça. C'est un peu la même idée, le même sentiment. C'est-à-dire que quand nous mourrons, ou quand Jésus reviendra, si c'est de notre vivant, eh bien justement, nous passerons dans le royaume plein, le royaume de Dieu qui règne parfaitement sur notre terre. Ou si nous mourrons, nous serons à la droite de Dieu, avec Jésus, et nous régnerons avec lui. Vous imaginez ça, ou pas ? Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous vous dites ce genre de choses ? Nous sommes appelés à juger les anges. À juger les anges. Et à la fin des temps, à juger, à régner avec Jésus. Dans un monde parfait, nous sommes dans le camp des gagnants. Nous avons le ticket gagnant, avec tous les numéros. Sachant qu'il n'y a qu'un seul numéro, c'est Jésus. Par contre, on n'a pas encore le chèque. Le chèque, on l'attend un peu. Hein. Mais sachez que le chèque, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Tout comme quand vous avez le numéro gagnant de l'Euromillion, vous êtes sûr que vous allez être riche. Hein. Vous allez avoir un chèque de à peu près 4 mètres sur 2 à balader comme ça et à amener à la banque. Là, votre chèque est à la banque aussi. Et on ouvrira bientôt le coffre. Mais pensez à la fin des temps. Pensez à l'avenir, à l'espérance chrétienne. C'est ce qui vous rendra heureux. Et c'est ce qui vous permettra de vivre le premier élément de chaque béatitude. Vous le savez, Jésus ne nous a pas promis le monde des bisounours. Car chaque premier élément des béatitudes, c'est quelque chose qui fait souffrir, ou c'est quelque chose qui coûte. Et c'est un truc qu'on n'a pas forcément envie de vivre, si on ne pense pas à la compensation qui, elle, rend heureux. Jésus ne nous a pas promis un monde facile, mais il nous a promis qu'il serait toujours avec nous. Et ça n'a pas de prix. C'est justement ça la source du bonheur. C'est d'avoir Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est Emmanuel. Rappelez. Quelles que soient les situations, nous sommes assurés qu'elles sont sous le contrôle de notre Père Céleste, qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour mourir à notre place sur la croix. Nous pouvons lui faire confiance dans la vie comme dans la mort. C'est ça, le bonheur. C'est bizarre. Certains chrétiens s'attendent à ce que, puisqu'ils ont mis leur foi en Dieu, ils ont mis leur foi en Jésus, ils s'attendent peut-être à vivre un bonheur constant, à être riche, en bonne santé. Mais c'est un pur mensonge. Jésus n'a absolument jamais promis cela. Il a même plutôt promis le contraire. Mais il a promis sa présence. Sa présence en nous, elle est effective par l'Esprit Saint. Et ça donne une paix, ça donne un bonheur ineffable. Mais le lieu où l'on vit ce bonheur, où l'expérience du royaume de Dieu est déjà vécue, c'est ici. Enfin, c'est pas une question de lieu, c'est une question de communauté, c'est pour ça que je mets communauté dans le titre. C'est dans l'Église. Alors, continuons de grandir avec nos frères et sœurs dans la foi. Continuons de servir le Seigneur par les dons qu'il nous fait grâce à son Esprit. Apprenons le bonheur parce que nous pourrions bien vivre des choses que nous n'imaginons même pas. Peut-être qu'en fait, Dieu a un plan absolument merveilleux pour notre Église, qui n'est pas forcément juste le plan de l'Épi, par exemple à Châteaudun, qui est appelé à se développer et qui se développe déjà et qui a déjà des résultats extraordinaires. Peut-être aussi que pour le groupe qui est ici à Gobert, qui est dans les deux cantons de Orgères et Pathé, peut-être que Dieu a aussi un avenir radieux. Continuons de comprendre nos faiblesses personnel. Continuons de regarder avec bienveillance les faiblesses des autres, histoire d'expérimenter à quel point Dieu est bon envers tous. Malgré nos faiblesses, Dieu est bon envers nous. Regardons à quel point Dieu nous éduque, à quel point il nous transforme par son Saint-Esprit jour après jour. C'est pourquoi, comme dernière exhortation, je pense qu'il serait vraiment bon d'avoir entre nous des relations plus intimes, des conversations plus intéressantes, plus intimes, spirituellement parlant. Nous devrions plus partager nos expériences positives avec le Seigneur, et même nos expériences négatives d'ailleurs. Bref, quand nous nous parlons, soit à la sortie des cultes, mais peut-être que la sortie des cultes n'est pas forcément le meilleur endroit, mais lors des études bibliques, ou dans les moments où on s'invite, où on se voit, plus parler de notre expérience avec Dieu. Ne plus avoir de conversation comme on pourrait en avoir avec un voisin qu'on croise à la boulangerie. Partager nos expériences avec Dieu, nous édifier, nous encourager, c'est une véritable richesse que de voir la diversité des dons que Dieu nous a faits. Encourageons-nous les uns les autres. Pour conclure, je pense que dans la vie chrétienne, plus on est vieux, plus on a d'expérience, plus on sait que Dieu est fidèle. Plus on sait que Dieu est fidèle, et plus on laisse tomber les futilités de ce monde. Parce qu'on s'est aperçu que ces futilités étaient des futilités. Alors que quand on est jeune, ce qui brille, on a l'impression que ça brille vraiment et que ça a vraiment de l'importance. Alors quand on est vieux, on se rend compte que non. Et du coup, on va vers l'essentiel. Parce qu'en plus, quand on est vieux, on s'approche de quelque chose de très essentiel. On s'approche de quelque chose qui est très, 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 de plus en plus présent, c'est la mort. On s'approche des choses éternelles. La vie chrétienne est aussi faite de larmes et de souffrances, mais le bonheur va tout de même de manière croissante pour celui qui sait que le meilleur est à venir. Jésus revient bientôt. Le royaume véritable va bientôt définitivement triompher. Vivez dès maintenant dans le monde d'après et soyez heureux. Amen.